L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 18 octobre 1984. Il est 21h35. Au Baldwin Saloon, accoudé au bar, deux hommes prennent un dernier soda. À deux rues de là, dans un restaurant voisin, un couple termine son repas. Dans leurs assiettes, un peu de maïs et un steak de bison. Ce sont des habitués de restaurant. Ils y viennent pour la qualité de la viande et à cette saison, le bison est particulièrement tendre. Dans cette petite ville de Dells, nichée dans un contrefort de la rivière Columbia, la viande rouge est plutôt réputée. Nous sommes sur une terre de cow-boys. Stetson sur la tête, des gardiens de vaches chevauchent des terres rocailleuses, des plaines immenses qui s'étirent jusqu'à la rivière, des horizons qui se perdent à l'infini. Ouais, c'est le Far West. Et dans la ville de Dells, les restaurants comme le Baldwin Saloon ou comme celui où notre couple finit de dîner proposent principalement des viandes grillées, un bar à salade et des sodas. C'est l'Amérique profonde du nord de l'Oregon, pas très loin de la côte ouest des États-Unis. Si la ville de Dells nous intéresse, c'est parce que c'est le siège du comté de Wasco et qu'ici même, dans quelques jours, les électeurs décideront du sort d'une petite bourgade nommée Rajneeshpuram. En attendant le scrutin dont on parle beaucoup dans les médias, l'homme paye l'addition, range son portefeuille dans la poche arrière de son jeans, monte en voiture aux côtés de son épouse et prend la direction de son domicile. Soudain, à l'avant du véhicule, la femme est prise de violentes douleurs abdominales. L'homme à ses côtés s'inquiète, il l'interroge, constatant que ses crampes semblent de plus en plus vives. Il décide de se rendre à l'hôpital. En passant la porte des urgences, à 21h35, ce 18 octobre 1984, alors que la femme, main posée sur le ventre, avance vers le guichet où l'accueille l'infirmière de service, la suivante de quelques pas, son amant, lui, est pris de vertige. Et il s'écroule violemment sur le sol. Dans le même temps, les deux hommes qui, il y a quelques minutes encore, buvaient un dernier verre pour clôturer leur repas au Baldwin Saloon, poussent la porte des urgences. L'un s'est mis à vomir et semble ne plus s'arrêter. L'autre, pris de maux de tête, accablant, se plaint de douleurs effroyables dans l'abdomen. Cette année 1984, près de 750 personnes feront appel aux médecins ou devront se rendre à l'hôpital du comté. 45 personnes seront hospitalisées. 18 octobre 1984, 21h35, l'heure H de notre histoire. L'Amérique vient de vivre la première attaque biologique de son histoire. Trente ans plus tard, à l'autre bout du globe, une petite femme chétive, les cheveux gris mi-longs, descend de l'avion en provenance de Suisse. Dans la voiture qui l'emmène vers son hôtel, derrière ses lunettes rondes, elle regarde dans la nuit cette ville qui s'étire et dont elle a oublié les contours. Cela fait presque 35 ans que Mahanan Shila n'a pas posé les pieds à Delhi, sur le territoire indien. Elle a reçu du gouvernement son visa dont elle craignait l'obtention. Sa sécurité est assurée. La tournée de conférences qu'elle entreprend se passera bien. Sa venue sur le plateau de télé de la chaîne nationale est très attendue. L'animateur vedette l'accueille avec courtoisie, lui donne les derniers conseils. Ne pas regarder les caméras, faire comme si elles n'existaient pas. Ne pas avoir peur de choquer, elle risque d'être un peu secouée par le ton de l'émission. Surtout qu'elle ne se formalise pas. Qui peut penser que ce petit bout de femme de près de 70 ans, élégante dans son sari dernier cri, a choqué la planète entière quelques dizaines d'années plus tôt? Qui peut penser qu'elle prendra plaisir ce soir encore à provoquer le public présent dans ce studio de la télévision indienne? Mahanan Shila vient de publier un livre. Elle promet de tout révéler de son histoire extraordinaire qui l'a menée de son Inde natale à la prison américaine. En réalité, son intelligence supérieure se dérobe à chaque question, fût-elle frontale. Elle n'hésite pas à critiquer avec arrogance les jeunes journalistes et la banalité de leurs questions. Sheila ne dira rien. Si l'heure est à la provocation, le ton est parfait. Mahanan Sheila semble se comporter en femme du monde, s'amuse avec le public et manie le verbe et la courtoisie plus que de raison. Tout au long de cette tournée indienne, jalonnée de conférences, d'interviews, de dîners mondains, chacun, captivé par l'histoire de Sheila, tente de lui soutirer une confidence. Elle gardera ce secret, mais tout au long de ce voyage, des mots s'imposent et se répètent invariablement dans son discours, qui ressemble à un scénario bien rodé. Il est question d'amour, de dévotion, de bonheur, de paix. Aucune information sur le cœur du scandale. Mais au fond d'elle-même, Sheila est en colère. Pas un journaliste ne lui a posé la seule question à laquelle elle aurait voulu répondre. Où a-t-elle puisé sa force pour mener à bien son rêve extraordinaire? Son rêve ou celui de Bhagwan, l'homme dont le nom revient sans cesse et qui résonne dans toutes les interviews que donne Sheila. Et quant aux questions relatives à leur relation, était-elle platonique, était-elle teintée d'admiration, de colère, de trahison, d'injure, d'empoisonnement, de mise sur écoute, de sexe, de méditation, de drogue, d'argent? Qui tirait les ficelles du pouvoir? Sheila ou Bhagwan? Bhagwan ou Sheila? En tout cas, Sheila reste muette. À la sortie de ses conférences, elle propose son livre dans lequel, assure-t-elle, les réponses se trouvent. Si cette tournée est loin de livrer tous ses secrets, elle permet à toute une jeune génération en quête de sens de comprendre ce qu'avant elle, la génération New Age des années 70, était venue chercher dans les ashrams indiens, proposant les thérapies de méditation les plus dynamiques au monde. Une jeunesse dorée, Baba Cool, qui, à l'époque, remet en cause, en pleine guerre du Vietnam, la validité des gouvernements et de la culture occidentale et trouve en Inde des formes de réponse. Pour mieux comprendre cette histoire, il faut remonter en 1965, alors que la guerre du Vietnam fait rage et qu'une jeune fille de 16 ans s'apprête à rencontrer pour la première fois celui que son père annonce devenir le deuxième Bouddha. La jeune fille et son père se sont levés tôt. Ils ont pris le bus, ont sonné à la lourde porte en bois de l'immeuble, ont monté pas à pas l'escalier, sont entrés dans l'appartement aux murs couverts de livres. Assise contre le mur du fond, aux côtés de son père, Sheila sent la brise légère de décembre rafraîchir la pièce. Chacun, en silence, attend le maître. Quand enfin Bhagwan apparaît, il porte pour tout vêtement un châle blanc et un longhi, ce pan de tissu traditionnel indien que les hommes portent habituellement dans le sud du pays et qui, depuis la taille, couvre le bas du corps. En se déplaçant, Bhagwan donne l'impression de flotter dans les airs. L'adolescente observe sa poitrine magnifique, velue, ses longs cheveux et son regard lumineux comme un puits profond. Il est assis, parle posément, s'arrête, écoute, réfléchit et plante à nouveau ses yeux dans ceux de ses visiteurs. La jeune fille fond littéralement. Elle se lève et se jette dans les bras de Bhagwan, le serrant par la taille et posant la tête sur ses genoux. À cet instant précis, Sheila a l'intime conviction que sa vie est accomplie. Elle sait qu'elle peut désormais mourir. Sur son visage, des larmes coulent. Bhagwan, qui apparaît désormais comme un guide spirituel, littéralement un gourou, a suivi une formation de philosophie à l'université. Son caractère effronté posant parfois quelques problèmes, il a quitté il y a quelques années maintenant la faculté dans laquelle il était professeur. Puis, il a créé, autour de ses enseignements, des centres de méditation. Il développe une sorte de méditation dynamique, mélange d'hindouisme et de psychothérapie. Le patient ou disciple applique d'abord une respiration chaotique, une sorte d'hyperventilation vigoureuse. Puis il crie, il saute, il hurle. Il expurge le Kundalini, en quelque sorte le serpent qui se trouve en soi. Puis, dans une phase de repli, accepte le silence salvateur. Bhagwan Shri Rajneesh, de son nom complet, veut expérimenter la méditation dans une démarche scientifique. Il a déjà fait certaines expériences, celles du silence et de la solitude, enfant. Lorsqu'à la mort de ses parents, il est pris en charge par ses grands-parents, qui ne lui offrent comme occupation que la nature contemplative. Il y trouve une vraie joie. Plus tard, celle de la mort qui l'attend pendant 7 jours. Bhagwan a quitté Bombay pour la ville tentaculaire de Pune, connue pour abriter l'imposant palais de l'Aga Khan, où se trouvent les cendres de Mahatma Gandhi. Il y crée son premier ashram, l'ashram étant le lieu dédié à la méditation dans lequel vit un sage. Nous sommes dans les années 70. Une jeunesse privilégiée, plutôt formée intellectuellement, en quête de renouveau et à l'allure hippie, voyage à travers toute l'Inde. À Pune, cette même jeunesse, en quête d'un monde nouveau, découvre les méthodes et l'approche de Bhagwan. On dit de ces thérapies New Age qu'elles sont les plus dynamiques au monde. Dans cette ville écrasante, bouillonnante, les bus et les motos slaloment dans la poussière. Pas très loin des bidonvilles, l'agitation règne. Les odeurs, les parfums, les couleurs se mêlent. Au cœur de ce tumulte, un portail en bois sculpté indique aux visiteurs Shri Rajneesh Ashram. L'ashram de Bhagwan Rajneesh ouvre ses 2 grandes portes de bois sur un jardin paisible, verdoyant, abondant, contrastant totalement avec l'effervescence incessante de la métropole. Des visiteurs, majoritairement des occidentaux, tous d'orange vêtus, discutent tranquillement par petits groupes. Les échanges sont sereins. On boit du thé, on se prend dans les bras. Un peu plus loin, certains sont assis en tailleur à l'ombre d'un arbre. C'est une véritable oasis de quiétude, un havre de paix qui se découvre derrière ces murs. À travers la végétation dense, luxuriante, la maison de Bhagwan se devine derrière les vieux arbres centenaires qui abritent des milliers de perroquets. Le spectacle est enchanteur pour ces voyageurs venus de loin. Quotidiennement, Bhagwan donne des conférences, des ateliers. Ah, il est moderne, il est branché. Il séduit les intellectuels fatigués des traditions et d'une vie qui s'annonce sans intérêt. Quand il s'adresse au groupe, sa puissance est irrésistible. Cultivé, sa vision est éclectique. Il parle de toutes les religions, n'en exclut aucune. Il considère qu'on peut être spirituel sans forme de rejet. Il incite à la créativité, à la poésie, à la peinture, à la musique, et martèle que l'homme éveillé deviendra l'homme nouveau. Controversé, on l'appelle depuis les années 60 le gourou du sexe. Les tabous et les inhibitions, il les rejette. L'homme peut être irrévérencieux, quoi qu'il en soit, il est populaire. Et le succès est tel que des disciples arrivent de partout à Pune. Bientôt 6 000, 7 000 personnes affluent dans l'ashram. À chaque fois, Bhagwan prend la parole et séduit son auditoire. Bhagwan veut créer un homme nouveau, un homme qui vivra en harmonie avec les autres et avec la nature, toute nationalité et toute religion confondue. Il affirme : je n'ai rien de spécial. Je ne prétends pas être le fils de Dieu. Je dis juste une chose. J'étais endormi et je suis éveillé. Vous êtes endormi et vous pouvez être éveillé aussi. Il assure pouvoir créer quelque chose de nouveau et promet que le sexe sera comblé à un niveau supérieur. Et ça marche. Intellectuels de tous bords, juristes, architectes, financiers, secrétaires, les bobos des années 70 adhèrent. Chacun pense être élu pour ce dessein. Chacun pense participer au début d'une extraordinaire aventure. Chacun, conscient qu'il se passe quelque chose de différent à Pune, renseigne l'ashram à quiconque cherche un chemin autre que celui tout tracé qui l'attend.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte une histoire extraordinaire qui eut lieu aux États-Unis dans les années 80, alors que le pays vient de vivre sa première attaque bioterroriste. Pour bien comprendre cette histoire, il faut plonger dans l'Inde des années 70, alors que les centres de méditation voient le jour et qu'un gourou du nom de Bhagwan séduit particulièrement une jeunesse hippie venue d'Occident. Son ashram, centre de méditation, attire chaque jour plus de visiteurs. La jeune Sheila, fraîchement diplômée, rejoint la communauté de Bhagwan. La jeune fille a étudié aux États-Unis, à l'université de Montclair. On n'est pas particulièrement passionné par la méditation, non. Mais souvenez-vous, cet homme et son magnétisme, à l'aube de ses 17 printemps, l'avaient marqué pour toujours. Elle est vive, intelligente, désormais formée. Elle observe les talents de marketing de Bhagwan. Elle le sait intéressé par la finance. L'une et l'autre ont bien compris que la méditation était un produit. Un produit qui paraît abstrait, mais qui est vendeur et qui peut rapporter gros. Or, ces jeunes de passage à Pune, venus tout droit d'Occident, sont une source de revenus considérable pour la communauté naissante. Les dollars rapportent plus que les roupies. Sheila a appris en terre américaine à créer une société au fonctionnement capitaliste. Elle est rusée. Elle a le sens du pouvoir. 1500 personnes travaillent dans la communauté. Elles ont besoin de vêtements, de nourriture, d'effets personnels. Alors très vite, Sheila a l'idée de créer une banque attachée à l'ashram de Bhagwan. C'est simple. Elle utilise les ressources des quelques 3000 ou 4000 adeptes pour mettre en place un système d'argent laissé en dépôt et de cartes bancaires. Ce sont donc les adeptes du maître, les sannyasins, qui prêtent l'argent et créent de cette façon très rapidement une trésorerie de plusieurs centaines de milliers de dollars. Une fortune pour l'Inde. Au sein de sa communauté, Bhagwan veut des intellectuels qualifiés, des médecins, des avocats, des architectes urbanistes. Très vite, l'idée de créer une communauté qui pourrait servir d'exemple de ce qu'il est possible de faire naît dans l'esprit de Bhagwan et peut-être aussi dans celui de Sheila. Créer une communauté, mais aussi la ville qui pourrait l'accueillir. Le projet paraît fou, mais Bhagwan n'est plus très bien perçu par les autorités indiennes. Il semble alors temps de partir, d'autant que ce projet pourrait trouver tout son sens dans un pays de liberté. Dans le plus grand secret, orchestré par sa porte-parole, Bhagwan a quitté l'Inde. Il semble avoir quitté son ashram à bord d'une Rolls-Royce blanche, puis il aurait pris un Boeing 747 de la Pan Am dont l'étage aurait été entièrement aménagé pour lui. Dans cet avion, pour la première fois, Sheila a l'insigne honneur de servir directement le maître. Assise à ses pieds, la jeune femme lui verse d'abord un verre d'eau, puis une coupe de champagne. À son tour, le gourou prend la bouteille de champagne et serre la jeune femme en lui disant « Maintenant pour ma Sheila ». Déjà, Bhagwan lui avait glissé « Sheila, tu es amoureuse de moi et je suis amoureux de toi ». Sheila ne s'est pas aperçue tout de suite que Bhagwan l'observait de près. Mais y a-t-il un lien ? Progressivement, Bhagwan arrête de donner des conférences publiques. Il juge ses disciples prêts et entre en période de silence et de réclusion. Dans la foulée, il nomme Sheila secrétaire et porte-parole. Elle devient en quelque sorte la présidente de la communauté des Rajniciens et signe avec Bhagwan une procuration irrévocable, lui faisant porter toute la responsabilité de la communauté. Bhagwan lui a confié la mission de trouver un lieu où établir ce nouveau monde et de tout préparer pour le jour où il réapparaîtra.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte le destin incroyable de Mahanan Sheela, cette indienne embrigadée dans une histoire de secte et de terrorisme. C'est aux États-Unis que Sheela entreprend ses recherches. La Constitution américaine accepte toutes les religions. Voilà la terre promise que Bhagwan espérait pour développer ce monde idéal d'hommes nouveaux. Quelque part en Oregon, à 30 km de la ville la plus proche, Sheila a trouvé ce que Bhagwan cherchait. Un ranch de terre rocailleuse, un lieu dit appelé Big Muddy, des collines à perte de vue, 25 000 hectares de terre inexploitable. Le site est sauvage, accidenté, immense. À perte de vue, le regard de Sheila et de quelques adeptes se perd vers l'infini. Un peu plus loin, le vent souffle, des herbes tournent dans l'air chaud, des tumbleweeds, comme on les appelle par ici. Le vent et le silence à perte de vue. Des collines et une terre rocailleuse, tout leur appartient. Grisé, Sheila clame. C'est ici, sur ces 260 km², que nous allons bâtir une ville merveilleuse telle que l'univers n'en a jamais connue, où l'on vit en harmonie dans l'amour. Dans la presse locale, on titre « Un gourou roulant Rolls-Royce blanche vient d'acheter un ranch de 26 000 hectares en Oregon ». Les adeptes sur place sont conscients qu'ils sont venus bâtir pour Bhagwan, pour ce maître extraordinaire, non seulement une ville, mais aussi un temple remarquable. Bientôt, de nouveaux adeptes, animés par cette volonté de participer à un projet hors du commun, rejoignent le site. Chacun sait que ce qui se trame dans ce désert de l'Oregon est exceptionnel. Fiers de ce projet fou, les adeptes invitent la presse à assister à sa réalisation. Les images des journalistes saisissent les sourires, l'enthousiasme, l'énergie débordante, la force et le travail quotidien des équipes qualifiées créées pour faire sortir de terre cette nouvelle ville, la terre promise. Parmi les adeptes, architectes qualifiés, scientifiques et urbanistes, tous se mettent au travail. Chacun a abandonné le confort d'une Amérique moderne pour créer une société en autosuffisance. Affluant désormais dans ce paysage de Far West, des dizaines d'hommes et de femmes habillés en orange, tous guidés par un objectif titanesque, construire une ville nouvelle sur les terres rocailleuses d'un ranch à l'abandon. D'un côté, on réunit les créatifs, de l'autre les ingénieurs, afin de trouver les meilleures solutions techniques pour contrer ce paysage accidenté et hostile. On utilise les technologies les plus avancées. Bientôt, les charges d'explosifs dessinent le paysage, les bulldozers évacuent les tonnes de gravats. Une nouvelle ville se dessine. Le travail est colossal. Femmes et hommes sont tout sourire. Forts de leur jeunesse, travaillent sans relâche, jour et nuit, à la lumière des spots alimentés par des groupes électrogènes. On trace des routes, on dessine les contours de la rivière. On crée un barrage, des canalisations, une centrale électrique. À coups de sueur, d'espoir, de sourire et d'amour, des maisons, des chalets triangulaires aux murs vitrés, véritables maisons du bonheur, parsèment bientôt le paysage. Un centre commercial, un service bancaire, une pizzeria, une poste, une boutique de vêtements. Même si le choix de couleurs est limité, un aéroport et un centre de méditation semblable à un hall d'exposition pouvant accueillir 10 000 personnes sortent de terre, comme posés au cœur de la vallée aride de Big Muddy, devenue en quelque temps verdoyante. On crée même une agriculture raisonnée. Des fermes avec un système d'irrigation, des potagers. On nourrit des bêtes aussi, poules, vaches, chevaux. L'agriculture voit le jour dans ce désert d'Oregon et elle est florissante. Très vite, l'ensemble de la communauté devient autosuffisante. Les beaux jours voient l'arrivée de moissonneuses-batteuses. On a du lait, des œufs, des céréales, des légumes, de la viande. Cette terre, abandonnée de tous, devient belle, prospère. Et les antilopes sauvages font leur retour. Sheila savoure cette victoire et l'agrémente des paroles suivantes. On a ramené cette terre à la vie, à la sueur de notre front. On devrait avoir le prix Nobel. En ce jour d'août 1981, la petite communauté s'anime particulièrement. Bagwan arrive enfin pour découvrir sa ville rêvée. Il faut que d'ici quelques heures, tout soit parfait. Sheila est fébrile. Elle se sent comme une jeune mariée, prête à accueillir son époux pour sa nuit de noces. On a déroulé 400 mètres carrés de tapis d'herbe autour de la maison du gourou. Une dizaine de musiciens, assis dans l'herbe, jouent de leur instrument. Un tapis rouge est déroulé, bordé de fleurs. Des paons font la roue un peu plus loin, à l'ombre des arbres. Chacun, de pourpre vêtu, porte ses plus beaux vêtements. Au loin, on entend déjà les réacteurs du petit avion qui emmène Bagwan. Front posé contre le hublot de la carlingue, il découvre ces terres, immenses, dorées par le soleil. Lorsque l'avion atterrit sur la piste du nouvel aéroport, ce n'est pas sans émotion que Bagwan descend les marches qui le séparent de cette terre qu'il a voulu de toutes ses forces. En silence, les mains en position de namasté, Bagwan observe tout le monde. Son cœur est heureux. Sa barbe flotte au vent, ses yeux remplis d'étoiles découvrent enfin sa terre promise. Jamais, dans notre époque contemporaine, des hommes n'avaient réalisé un projet d'une telle force, d'une telle créativité, d'une telle ampleur. Ah, il faut le voir pour le croire. Partout, on parle de cette nouvelle ville, celle de l'homme nouveau guidé par l'amour. Désormais, c'est par centaines que les disciples affluent à Rajneeshpuram, au cœur de l'Oregon. Mais dans la petite bourgade voisine d'à peine plus de 40 habitants, à Antelope, on grince des dents à la vue de ces nouveaux venus. On a déjà lu dans la presse locale qu'une secte avec un gourou collectionnant les Rolls-Royce avait racheté les 26 000 hectares du ranch Big Muddy. Ils ont dit vouloir l'exploiter de façon agricole. Jamais personne n'a évoqué qu'une nouvelle ville pourrait sortir de terre. On raconte qu'elle devrait accueillir d'ici peu 100 000 adeptes. Dans les rues d'Antelope, il est devenu coutumier de croiser des disciples marchant en direction de Rajneeshpuram. Leur regard semble étrange. On dit qu'ils seraient hypnotisés par le gourou. Ah, il paraît qu'il suffit de croiser les bras pour ne pas être hypnotisé malgré soi. Alors, fermiers et retraités d'Antelope, bras croisés, observent depuis le seuil de leur maison ce balai de visiteurs. Et puis, dans un autre journal, les Rajneeshiens ont fait paraître une annonce. Explorez les recoins de votre sexualité. Voilà une invitation qui choque la petite communauté catholique conservatrice. On sait le gourou adepte du sexe libre, mais on ne veut pas de ça par ici. Ah, ça ne plaît pas du tout. Et encore moins, depuis que des nuits durant, et le jour aussi, on les entend partout en pleine nature pratiquer leurs ébats. Ah, j'ai jamais entendu ça. C'est comme si on partageait leur chambre à coucher, dit un fermier du coin. Un autre avantage de la Constitution américaine est le droit fondamental de pouvoir créer une ville dès lors qu'y résident 150 habitants. Sheila a donc fait domicilier 150 adeptes au ranch et ceux-ci votent unanimement l'incorporation de Rajneeshpuram en tant que ville. Cela implique de facto la création d'une municipalité autonome. Les journaux titrent. Les adeptes d'un gourou sont en train de voter l'établissement et le contrôle d'une nouvelle ville. Aux États-Unis, terre de liberté, que Sheila affectionne particulièrement, c'est certain. 150 citoyens peuvent créer leur propre ville. C'est un droit fondamental. C'est donc tout sourire, sous le soleil d'Oregon, que Sheila déclare ouvert le premier conseil municipal de Rajneeshpuram. Sur la table dressée à l'extérieur, sous un soleil radieux, Sheila, quelques élus municipaux et le nouveau maire s'applaudissent. Quelle victoire ! Ce statut de ville et cette faille ou ce droit de la Constitution américaine dans lequel Sheila et les juristes de la communauté se sont engouffrés. Du côté d'Antelope, on s'inquiète de plus en plus. On s'attendait à des voisins nettement moins envahissants. Le maire de la petite agglomération, qui compte en tout et pour tout 41 personnes, une école, un bar-tabac, une chapelle et une poste, s'alarme. Faut-il laisser des individus de cette trempe s'installer quelque part et détruire la culture locale? La presse titre. Les Rajneeshiens sont-ils dangereux pour leurs voisins, pour nous tous? Ce qui est certain, c'est qu'ici, dans cette Amérique reculée de cow-boys, de grands propriétaires terriens et de petits retraités venus chercher à Antelope une vie paisible, la nouvelle communauté bouscule. Antelope prend donc la décision de demander la destruction pure et simple des bâtiments de Rajneeshpuram, illégalement construits. Big Muddy est un ranch à destination agricole, hors de question d'y faire bâtir une ville et encore moins un hôtel de 500 chambres. Fine et rusée, Sheila se met à racheter pour le compte de la communauté tout ce qui est à vendre dans la petite ville d'Antelope. Et elle commence par le cœur névralgique, l'unique café de l'agglomération. Il est rebaptisé Zorba de Bouddha et on remplace le bacon par des bananes grillées. Dans la foulée, Sheila rachète 8 propriétés pour les riverains. C'est une déclaration de guerre. Provocation, vandalisme. Les uns affirment, ils sont sous l'influence de Satan. Les autres rétorquent, nous ne partirons pas. On entend des tirs. Les fermiers se transforment en rangers. Armés de fusils, ils sillonnent la région. La peur et la haine s'installent. Sheila répond et envoie un hélicoptère qui survole et menace les fermiers armés à l'arrière des pick-up. Puis elle enchaîne avec le harcèlement. Toutes les nuits, la secte dirige des spots géants vers les habitations d'Antelope. Des faisceaux lumineux balayent inlassablement les fenêtres des habitations. Le jour, les Sanyasiens se mettent à photographier les habitants d'Antelope. Ils filment et photographient leurs moindres faits et gestes, sans cesse. Des paparazzi avant l'heure. À Antelope, chacun est éprouvé, fatigué par cette guerre des nerfs. Résignés, les habitants d'Antelope envisagent de détruire leur propre ville par le biais de la désincorporation. Cette ville doit-elle vivre ou mourir? C'est la question posée ce matin de 1982, alors que les habitants de la petite communauté d'Antelope se rendent aux urnes. L'air est sec ce jour-là. Le soleil brille. Le vent souffle, lorsque des hordes de journalistes, de photographes et de caméramens déferlent sur la ville. ABC, CBS, NBC, tous traitent du sujet à l'heure de la plus grande écoute. Les urnes sont organisées dans la petite école d'Antelope. Dans le jardin, 5 balançoires poussées par le vent crissent légèrement. Sous l'œil des caméras, le silence est pesant au cœur de la petite communauté. Autrefois, lors d'un scrutin, 41 habitants votaient. Désormais, avec le rachat des bâtiments et du café, la population totale de la petite bourgade compte 95 habitants. Les Rajneeshiens sont majoritaires et, sans surprise, remportent cette élection. La ville ne sera pas désincorporée. Les sentiments sont mêlés parmi la petite communauté. Les retraités réagissent. Si on ne fait rien, ils vont coloniser l'État. Quelques mois plus tard, dans les rues de Portland, la ville la plus importante du comté, vers 1h20 du matin, on entend une détonation. 2h56, deux autres bombes, nous en sommes certains cette fois, explosent dans un hôtel appartenant à Bagwan. En pleine nuit, des adeptes et leurs familles, en voyage dans l'Oregon, se retrouvent sur le trottoir, enveloppés dans des couvertures, le visage éclairé par les lumières des services de secours. La colère de Sheila est indescriptible. En réponse, elle crée sa propre police. Rajneesh Puram se transforme en véritable camp d'entraînement. Du matin au soir, des hommes et des femmes, casques sur les oreilles, tirent sur les cibles. Les adeptes sont munis de fusils d'assaut semi-automatiques. On crée même une académie de police. Les voitures des nouvelles forces de la paix patrouillent jour et nuit et des policiers se posent à l'entrée et à la sortie d'Antelope. Les forces d'occupation sont en place, crie un riverain hors de lui. Localement, les marchands d'armes se frottent les mains. Les ventes ont décuplé. Triomphante, Sheila affiche son sourire sous ses lunettes de soleil, en tailleur pantalon avec à la taille, un ceinturon et un 357 Magnum. Elle est très claire. Si je ne prends pas les mesures pour protéger la communauté, personne ne le fera. Je n'étais pas armé en arrivant, mais je ne tendrai pas l'autre joue. Ce serait pathétique. Et elle enchaîne. Si nécessaire, nous sommes prêts à utiliser les armes. Sheila apprend à être intrépide, provocante, choquante. Elle est hautaine, arrogante, insultante parfois. Le personnage est rodé, dirigé peut-être par Bhagwan. En tout cas, elle endosse bien le costume et saisit toutes les occasions de faire de la publicité pour le mouvement. Elle accepte toutes les invitations médiatiques et joue la carte de la provocation. À la question « Est-ce vrai que vous pratiquez l'amour libre ?» Sheila répond « Vous préférez l'amour esclave ?» Et forte des idées véhiculées par Bhagwan, elle enchaîne. « Nous sommes la seule communauté à ne pas avoir de maladies vénériennes, pas de drogue, pas de crime, pas d'alcool, et j'ajouterai une chose. Nous sommes les seuls à prendre notre pied. » Bon, la messe est dite. Mais ce personnage provocant est une formidable machine à vendre. Plus elle choque, plus les chiffres de vente des livres de Bhagwan grimpent. En Italie, en Angleterre, à Berlin, en Inde, en Australie, en Allemagne, en Suisse, au Portugal, à Tokyo, à Amsterdam, partout, des communautés autosuffisantes fleurissent. Près de 500 000 personnes partagent désormais l'enseignement du maître. Ce nuage de fumée préoccupe non seulement Antelope, mais aussi les autorités de l'État. Le procureur Dave Fronmeyer s'est informé de la situation. Elle est extrêmement tendue et, plus que cela, elle est embarrassante. La jeune ville est lourdement armée. Elle possède des grenades lacrymogènes et quantité de semi-automatiques. En réunion, même si personne n'ose y croire, le mot de guerre civile est prononcé. Le problème est inquiétant et on n'en connaît pas l'issue. Ce qui est certain, c'est que l'État veut coincer ceux qui ont planifié ce vaste plan. Dès lors, on organise un groupe de travail réunissant les opposants de la secte. L'objectif est de détruire la communauté en utilisant la loi. Premier point, l'école est-elle vraiment publique alors qu'on y porte des signes religieux? Qui élit le maire? Bhagwan. Qui choisit les conseillers municipaux? Bhagwan et Sheila. Il y a techniquement, en termes de loi, une confusion entre la religion et les autorités de cette ville. Informée de ce qui se prépare dans le bureau du procureur, Sheila s'énerve. « Dites à vos gouverneurs, à votre procureur général et à tous ces infâmes bigots que s'ils touchent à l'un des miens, je ferai tomber 15 têtes. » Et je suis très sérieuse. Avant d'ajouter, « Ce pays est un ramassis d'intolérance qui mérite qu'on les renverse. » Le 13 septembre 1985, coup de théâtre. Sheila quitte l'Oregon en direction de l'Allemagne. Elle s'enfuit avec quelques disciples et $1 million. La colère de Bhagwan est sans précédent. Il l'accuse publiquement d'avoir planifié une intoxication à la salmonellose dans les restaurants de la ville de The Dells. L'objectif ? Brouiller les résultats d'un scrutin lié à l'avenir de Rajneesh Puram. C'est elle et quelques disciples qui ont dissimulé la bactérie de salmonellose dans les manches de leurs vêtements pour la disperser dans les bars à salade d'une dizaine de restaurants de la ville. C'est elle encore qui a mis la communauté sur écoute, qui a voulu tuer son médecin personnel et qui a projeté de tuer des représentants de l'État. Le FBI, désormais en charge de l'affaire, débarque à Rajneeshpuram, saisit tout ce qu'il peut et lance ses mandats d'arrêt. Entre-temps, Bhagwan a fui. Les adeptes sont atterrés. Livrée à elle-même, Rajneeshpuram vit sa dislocation. Quelques semaines plus tard, Sheila est arrêtée, extradée d'Allemagne. Elle purgera 39 mois de prison et sera libérée pour bonne conduite. Elle n'a jamais exprimé aucun remords sur ce qui s'est passé. Certains racontent que Bhagwan se droguait au Valium et au gaz hilarant, que Sheila était au désespoir de le voir se détourner d'elle au profit d'adeptes fortunés. Bhagwan, lui, dans sa fuite, est retrouvé rapidement, tout aussi rapidement relâché. Il exercera en Inde jusqu'à sa mort, sous le nouveau nom d'Osho. Quel a été le moteur de Sheila durant toutes ces années ? L'amour inconditionnel pour cet homme, image paternelle, rencontré à l'aube de ses 17 printemps ? Était-elle sous l'influence de Bhagwan ? A-t-elle vraiment voulu brouiller des élections en introduisant de la salmonellose dans les restaurants de la ville de Dales ? Cela n'a jamais pu être prouvé, mais semble vraisemblable. Ce qui est certain, c'est que Bhagwan a permis à cette femme de se dépasser, de prendre confiance en son potentiel et de mettre à profit son incroyable ambition. A-t-elle été portée, aveuglée par la force de ce projet extraordinaire, au point d'éliminer tous ceux qui se mettaient en travers de sa route ? Sans doute. La fin justifie-t-elle les moyens ? Certainement pas. Est-elle une extraordinaire manipulatrice ? Si les sectes reposent sur trois éléments fondamentaux de promettre la transformation, de former une nouvelle religion et d'unir les adeptes dans une idée de « nous contre eux », peut-être, alors, était-ce le dessein d'un gourou imposteur, ombre manipulatrice, qui s'est exprimé tout au long de cette histoire et du parcours de vie de Sheila ? Sheila n'a jamais émis aucun remords, n'a jamais porté atteinte à l'image de Bhagwan et vit désormais en Suisse, au service de personnes retraitées. Voilà, c'était leur H de Manan Sheila, un récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Armel Gissen.
Leur H, Jean-Louis Lahaye.